RMC Running,
Amine Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial. On a l'honneur d'être avec un recordman d'Europe. Il est français et on est très fiers de lui. Il rentre tout juste de Castellón. D'ailleurs, vous allez l'entendre, il est encore à l'aéroport et il nous offre de son temps. Yann Schrub est avec nous. Comment tu vas, Yann ?
Hello, bah écoute, ça va très bien, très bien. Un peu les jambes dures et on va dire un peu fatigué parce que la nuit était courte. Des problèmes de sommeil, quand ça se passe comme ça, le cerveau n'a pas forcément l'habitude de vivre des choses de l'ampleur là, donc, mais bon, le moral est bon forcément, donc à partir de là, tout va bien.
On se réveille avec un record d'Europe sous le coussin, c'est quand même sympa.
Ouais, exactement, non, franchement, il y a des réveils qui sont plus difficiles que d'autres. On va dire que celui-là, il était quand même plutôt agréable, mais c'est vrai que j'ai encore du mal à réaliser, donc je pense qu'il me faudra un petit peu de temps. Parce que je pensais pouvoir réaliser le record de France, mais le record d'Europe, pas forcément, quoi.
On le rappelle, 26,43 sur 10 km route, c'est stratosphérique. C'est tout simplement la sixième performance mondiale de tous les temps. Un record personnel de 37 secondes. Et j'ai avec moi un de tes collègues de l'équipe de France d'athlétisme, Johan Durand, qui est avec nous. Comment tu vas, Johan ?
Salut à tous. Ouais, bah ça va impec. Alors, collègue, il y a longtemps. Moi, j'ai pas remis le maillot depuis 2022. Ça commence à
Ouais, mais
ça
tu sais ce que c'est, hein. Toi qui as un chrono en 28,15 sur 10 km route.
Oui, ça commence à dater aussi.
Quand on voit 26,43.
Mais tu sais que...
Ça hérisse les poils.
Quand Yann a fait sa perf, là, je me suis posé la question, je me suis dit combien de kilomètres je pourrais suivre Yann aujourd'hui. Et je pense que même 1,5 km et je suis... Vraiment, il faudrait des bonnes conditions. Il faudrait que je sois sur une piste avec des pointes pour passer en 4 minutes au 1500 et après... Et après, je m'arrête, quoi. C'est là pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. 26,43, c'est 13,21 au 5 km. C'est 2,40 au kilomètre.
Moi, je peux vous dire que tous les humains normaux, j'ai envie de dire, qui essaieraient de faire 2,40 par kilomètre, auraient la sensation d'un sprint.
Ah bah oui, un vrai sprint, ouais.
Et là, Yann tient ça à 10 km. C'est incroyable.
Ah, c'est ça qui est impressionnant. 16 au 100 mètres, bah, accrochez-vous, mettez-vous sur une piste et essayez de le faire. Vous verrez que ce n'est pas simple. Ouais.
J'ai à ma gauche également David Alias qui a pu s'entretenir hier avec Yann Schrub. Comment tu vas ?
Ça va super et toi, Amine ?
Performance exceptionnelle.
Ouais, incroyable.
Quelle a été ta réaction justement quand tu as vu cette course-là ?
Ah, bah, j'ai regardé la course en direct. J'étais franchement époustouflé. Au passage aux 5000, aucun rictus. J'avais l'impression que la foulée était fluide, ça volait, quoi, que Yann était sur la route du record, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter.
Yann, on va revenir sur cette course-là. Comment tu te sentais sur la ligne de départ ? On le rappelle, il y avait Andreas Almgren qui était l'attraction de cette course. Il avait publiquement annoncé qu'il visait le record d'Europe. Il avait d'ailleurs un pace alloué à lui. Et toi, tu es passé un peu sous les radars, j'ai envie de dire.
Ouais, exactement. Moi, en fait, si tu veux, je venais dans cette course pour déjà faire moins des 27, c'était déjà un objectif qui était abordable, hein, ambitieux, mais abordable, puisque j'avais fait 27-20 à Houille en décembre, mais un peu tout seul avec des virages et un peu
ouais,
de dénivelé.
Pas facile le parcours.
Ouais, c'est pas du tout facile, pas l'idéal. Donc je valais, je pense, déjà 27-0 en décembre. Sauf qu'après, entre les valoirs et les faire, il y a toujours un monde. Hein, donc c'est toujours très compliqué de dire je vaux telle ou telle performance, parce qu'après, il faut le montrer sur le terrain. Moi, je dis toujours, les entraînements, c'est bien beau, mais... On compare les athlètes en compétition. Donc,
bien sûr.
J'arrive sur cette course en me disant oui, tout est possible. Donc 26,50 pour moi, c'était, on va dire, la fourchette haute de ce que je pouvais faire. Et on va dire 26,55, c'est ce que je visais vraiment. Donc après, j'ai beaucoup préparé la tête avec mon prépa mental. Il y a des choses qui ont changé au niveau physique aussi avec Bruno Gagère en prépa physique. Donc, j'ai pas la même forme que l'année dernière, j'ai pas la même forme non plus que le mois de décembre. Les conditions, il faut le rappeler, étaient quand même quasi optimales, voire optimales. Il n'y avait pas de vent, c'était 10-12 degrés, il y avait du soleil, la route était sèche. C'est un parcours qui est quand même plutôt plat. Et puis il y a Almgren qui vient donc dans cette course avec des paces, comme tu l'as dit. Par contre, les paces qui ont eu un temps de passage demandé à 13-20, 13-25, donc. À partir de là, de toute façon, tu te dis, ben, j'ai pas le choix, en fait, je pars au suicide et on verra ce qui se passera. Donc, j'ai préparé ma course psychologiquement à me dire, je vais suivre le plus longtemps possible Andreas et quitte à péter à la fin, Je pense que quand même les 26-59 sont abordables, quitte à vraiment terminer à 3 kilos ou 2,50. Et finalement, c'est ce que j'ai fait psychologiquement. Je me suis dit, allez, kilomètre après kilomètre, tu le tiens. Ben, j'ai été agréablement surpris par mes sensations. Finalement, je me retrouve avec lui, je me retrouve à reprendre des relais et à me dire, ben écoute, voilà, on va faire la course à plusieurs. C'est ce qui s'est passé. Alors, là, quand même, la petite subtilité, la petite anecdote de cette course-là, c'est quand même, je passe au 8e kilomètre et je me trompe dans les calculs. En fait, je me trompe dans les calculs du temps de passage parce que 2,42, c'est 27,0. Et à un moment donné, avec le manque de lucidité, 8 fois 2,42 au kilo, à un moment donné, je me suis complètement perdu. Et je me suis dit, bah, ça y est, le record de France, il est trop loin. Je vais faire 27,15, 27,20.
Et, record de France qui est en 27,04 à l'époque.
Exactement. Donc, je me suis dit à ce moment-là, bah, en fait, je suis à fond, mais j'ai l'impression... Enfin, on a ralenti, alors je ne comprends pas. Soit j'ai des mauvaises jambes, ou soit il s'est passé quelque chose. Andreas, il ne doit pas être en forme puisqu'il est encore avec moi. Donc, je n'ai pas trop compris la situation. Et en fait, au passage au 9e kilomètre, je vois que, en fait, non, tout est encore possible et j'en ai remis une couche. Et c'est là où la prépa mentale m'a aidé puisque... Du 8 au 9, je me dis, de toute façon, j'ai mis un dossard. Il faut que le cerveau il comprenne qu'à partir du moment où je mets un dossard, j'y vais à fond. Et donc, peu importe le chrono à l'arrivée, je me suis dit, je me donne à bloc pour avoir aucun regret, quitte à faire 27-20, et on verra. Et finalement, bah voilà, je me suis battu à Calmgren pour un record de France dans la dernière ligne droite. Que demande le peuple ?
Un record d'Europe, en plus, du record de France, c'est juste exceptionnel. On le disait, en plus, tu es en très grande forme parce que tu bats le record d'Europe du 3000 mètres en 7-29 il y a 2 semaines. Et là, tu enchaînes avec un record d'Europe. On est comment ? On est sur les étoiles en ce moment. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose de grand à faire sur cette course-là ?
Franchement, pour les gens, peut-être pas, mais j'ai vraiment dit, là, j'ai passé un cap, le 27-20 d'Ouïe. Pour moi, c'est vraiment là où je me suis dit, ah ouais, là, j'étais tellement facile, tout seul, j'ai pas forcément accéléré dans les derniers kilos, j'ai accéléré les 200 derniers mètres, je fais 27-20, je dis, ah ouais, là, j'ai passé un cap. Après, il s'est passé la 11e place des championnats du monde de cross, où là, je pense que ce n'est pas forcément représentatif de ce que je valais réellement. Il y avait des conditions très dures.
Moi, j'ai vu la course, il y avait de la pluie à foison, il y a des côtes, il y a des virages serrés.
Non, horaires, voyage.
Je parle des mondes de cross où je fais 11e, où c'était peut-être une petite déception quand même, même si ça reste le niveau mondial, c'est une déception, parce qu'au bout de 2 km, tu vois déjà que le podium par équipe, il s'envole, donc dans la tête, c'est dur aussi. Donc je pense que voilà, j'étais quand même en forme, mais ça ne s'est pas forcément montré sur le terrain, même si j'ai tout donné. Et par contre, le 3000 de Metz, effectivement, là, j'ai dit à Dominique Abyss, l'organisateur de la course, comme c'est chez moi à Metz, à 3 km de mon appart, j'ai dit, bah, en fait, on vise le record de France et de toute façon, on verra ce qui se passe. Hein. Si ça se trouve, je termine en 7,40. J'en savais trop rien et puis c'est passé. Et à partir de là, ben, voilà, j'ai commencé à être sur mon petit nuage et ça continue ce week-end. Quoi. Donc, tout va bien.
David.
Ouais, Yann, tu te disais jusqu'à présent, tu te définissais toi plutôt comme un coureur de championnat. Hein. T'as fait pas mal de médailles sur les championnats d'Europe notamment. Et là, tu fais 2 records en 2 semaines, un record de France que tu piques à Jimmy Gressé sur le 3000 indoor. Et puis là, le record d'Europe, tu piques le record de France d'Étienne Daguinos. Comment t'as fait cette transition, toi, entre le je suis un coureur de championnat et j'arrive à battre mes adversaires au finish comme tu le fais sur le 5000 l'été dernier où t'es champion de France, à un coureur de chrono maintenant ?
En fait, j'avais beaucoup ce complexe d'infériorité, je me bridais beaucoup psychologiquement. Je vais te donner un exemple. Je passe en 13-21 aux 5 bornes. Je pense que le Yann de l'année dernière, il abandonne. Parce qu'il se dit, de toute façon, en 13-20, j'ai terminé en marchant, j'ai pas le niveau pour, j'y arriverai jamais. Et en fait, les chronos me faisaient peur. Donc là, ce que je voulais vraiment faire, c'est, tu vois, kilomètre après kilomètre, ce que ça donne. Par contre, je veux être fier de moi, je veux être fier de ce que je fais, je veux avoir aucun regret. Donc, si jamais je devais louper le record de France du 10K, parce que c'était ce que j'avais en tête, j'ai envie que ça se passe dans le dernier kilomètre et que ce soit que physique et pas psychologique. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup travaillé. À un moment donné, je me suis vraiment dit, mais pourquoi j'y arriverais pas ? Le déclic, il faut quand même le dire, c'est le 5 km de Lille l'année dernière où je fais 13-0. Jimmy bat le record d'Europe du 5K en 12-57. Il me bat à la fin. Mais c'est la première course que vraiment j'ai réalisée au train et que j'ai réussi à suivre Jimmy jusqu'à la fin. Bon, après, il me met quand même 3 secondes, mais quasiment jusqu'à la fin, je le suis. Et c'est de là où vraiment je me suis dit, mais pourquoi je ne serais pas capable ? Pourquoi je n'y arriverais pas ? Et je sais que J'avais quand même des chronos dans les jambes. J'ai pas fait ces médailles européennes pour rien. Je valais pas 28-0. Quand tu fais deux fois des médailles au championnat d'Europe sur 10 000, c'est que quand même, tu as un niveau qui est correct. Et j'arrivais jamais à le concrétiser, quoi. Et là, enfin, cette année, le gros déclic. Et je crois un peu plus en moi. Je me dis que j'y vais pour m'arracher avant tout, pour avoir aucun regret. Et le mindset est complètement différent, quoi.
Juste après la course, on a vu des messages sur les réseaux sociaux où Jimmy Gressier et Etienne Daguinos t'ont félicité. Johan, on a vraiment un contingent français exceptionnel en Jimmy Gressier qui est champion du monde sur le 10 000 mètres. On a Etienne Daguinos qui était ex-recordman du coup du 10 km route en 27-04. On a une génération dorée, on peut le dire.
Non, complètement. Et puis Yann parle du côté... casser des barrières, et je pense que le fait que Jimmy l'été dernier et soit allé chercher ce titre de champion du monde chez les Français a aussi permis de faire cette bascule et de se dire ouais, bah enfin, on est capable de battre les coureurs africains, et Jimmy a montré l'exemple sur cette course là mais c'est pas la première fois. Voilà, c'est, il faut se dire que tout est possible. Et effectivement, que ça soit Jimmy, Étienne, Yann, même derrière, t'as même encore des Valentin Gondouin qui fait médaille au championnat d'Europe l'été dernier sur la route. T'as même Félix Bourg. Enfin là, si tu regardes les 20 premiers des 10 km de Castellón, je crois qu'il y a 5 ou 6 Français dans les 20 premiers. Je me demande si c'est derrière l'Éthiopie, on n'est pas
la plus grosse nation.
La plus grosse nation qui court, t'as 20 mecs, t'as 5 mecs en moins de 28-15 sur le 10 km sur une seule course. Donc effectivement, la densité est belle, et en plus, nos têtes d'affiche ont de moins en moins peur des coureurs africains. Et effectivement, je pense que les championnats d'Europe de cet été vont être merveilleux, parce que entre les Suédois, les Norvégiens et les Français, et même quelques Britanniques, ça court quand même très vite en Europe aujourd'hui, et il n'y a plus trop de complexes vis-à-vis de l'Afrique. Ouais.
Et ce qui est très sympa, c'est que vous êtes très amis avec Étienne et Jimmy.
C'est ça, ouais.
Là, pour le coup, Yann, il y a une vraie fraternité qui s'est créée au sein du demi-fond français et du fond.
Ouais, bah clairement, en fait, on était partis en stage aux US, hein, de toute façon, en janvier ensemble, après les championnats du monde de cross. C'était une initiative aussi de nous trois de vouloir monter une équipe pour les mondes de cross. Malheureusement, on était loin de la médaille, mais c'était un peu l'objectif visé. Et surtout, si on parle que du 10 km au niveau Europe, il faut quand même rappeler que Jimmy a déjà eu le record d'Europe, Étienne a déjà eu le record d'Europe, et maintenant moi... derrière, tu l'as dit, on peut encore nommer, de tous ceux que tu as nommés, on peut encore nommer des Fabien Palco, on peut nommer des Bastien Augusto en 27-30, on peut nommer des Rudolf Lévis. En fait, la liste est tellement longue au niveau français que ça se pousse sans cesse. Et c'est ce que je disais encore à Étienne. De toute façon, là maintenant, les Français seront obligés de courir en moins de 26-50 s'ils veulent espérer reprendre le record. Donc ça va à chaque fois pousser les barrières. J'ai eu une statistique avant. Ronex Kipruto, qui est un Africain qui est donc suspendu pour dopage, qui est le recordman du monde du 10 km, a priori risque de sauter. Si le record la saute, ce serait 26-31. On est à 12 secondes du record du monde.
C'est une seconde par kilomètre.
Une seconde par kilomètre. Alors, ça reste quand même encore 12 secondes, hein, on ne va pas se mentir, mais on s'y rapproche. Et là, il y a Almgren, il y a moi. Il faut quand même rappeler que dans les derniers championnats du monde de Tokyo, il y a Isaac Kimeli, Almgren et Jimmy qui font des podiums mondiaux. Voilà, donc sur 5000, 10000, trois Européens qui prennent 6 places sur les deux podiums. Voilà, on commence à exister au niveau européen. J'oublie Loubalou, j'oublie Thierry Andy Kumenayo, l'Espagnol. Il y aura du très très haut niveau au niveau européen. J'ai calculé, on serait potentiellement 7-8 qui peuvent valoir 26,50, 26,55. Donc cet été, ça va être du niveau mondial quasiment au championnat d'Europe. Et le niveau européen et français est en train de monter très haut. Et j'espère que d'ici LA, en Los Angeles 2028, on pourra vraiment prétendre à un podium peut-être 100% européen, voire peut-être en mettre plusieurs sur la boîte au niveau français. En tout cas, on est bien parti pour, et j'espère que ça va encore continuer à progresser, et que les records comme ça de France vont être battus d'année en année, quoi.
Outre les compétitions, là, avec la décomplexion par le titre de champion du monde de Jimmy à Tokyo, ça vient d'où ce nouveau regain là, du côté français? C'est parce que vous faites beaucoup de stages ensemble et que vous arrivez à rattraper le niveau des Africains. On s'entraîne plus ensemble. Vous avez fait un stage en Floride avec Nicolas Marie Daru, Étienne Daguinos, Jimmy Gressier. Ou est-ce qu'il y a aussi une baisse de niveau du côté africain? Comment tu l'expliques, toi?
Alors, peut-être deux choses. Je l'explique par peut-être deux choses. La première, c'est qu'on a quand même un entraînement de plus en plus contrôlé. Les Français, les Européens font un entraînement avec le cardio, prise de lactate, etc. Mmh. Donc, on est dans un entraînement beaucoup plus contrôlé. On est moins à l'instinct qu'avant. On est moins dans la surfatigue aussi qu'avant. On choisit aussi beaucoup plus nos courses, ce qui fait qu'on arrive avec des pics de forme. Ça, je pense que c'est la première des composantes. Et la deuxième composante, et non pas des moindres, c'est l'aspect psychologique, encore une fois. Mmh. Quand moi, je voyais Yomif Kejelcha, quand je voyais des gros noms comme Aregawi, comme Barega, enfin tous les Éthiopiens, Kenyans, Ougandais, Cheptegé, etc., pour moi, c'était stratosphérique ce qu'ils faisaient. À un moment donné, si j'avais le même mindset, et je l'ai dit avant, que l'année dernière, j'aurais fait peut-être 27-10 aujourd'hui, avec le même état de forme physique. Donc je pense que le mindset est en train de changer complètement, ne plus avoir de complexe. Bien sûr que, comme je suis parti au suicide hier, j'aurais très bien pu complètement exploser. Mais tu vois, c'est passé. Donc peut-être qu'un jour, dans un grand championnat, un mec qu'on n'attend pas, comme Jimmy, on ne l'attendait pas forcément en tant que champion du monde, eh ben, il a pris sa chance, il l'a saisi. Et finalement, il avait les capacités pour aller chercher cette médaille d'or. Et peut-être qu'à l'avenir, il y en aura d'autres qui vont saisir cette chance-là. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on est en train d'évoluer en niveau. Je pense qu'il y a d'autres composantes, mais c'est les deux principales pour moi.
Yohan, ton retour, c'est cette performance de Yann Schrub?
Ah bah c'est monstrueux. Après, effectivement, je reviens à ce qu'il avait dit tout à l'heure, mais le 27-20 de Houille, pour avoir déjà couru la corrida de Houille, quand tu gagnes tout seul comme ça et que tu fais un long moment solo en 27-20, et en plus, comme il l'a dit, en aisance, ça, tu vois, moi je ne savais pas, j'avais pas cette composante-là, mais effectivement, c'est que tu savais que c'est un athlète, enfin, il savait qu'il valait 27-0. Quand en plus, quelques semaines avant, tu vas sur un 3000 en salle, pareil, tu cours un peu à la maison sur une piste qui est pas, c'est pas Boston, hein, mince, on va pas se mentir, le rendu est pas le même, la salle est pas la même, et que tu arrives à faire 7-29 en salle, pareil, tout seul. Bah, c'était, enfin, moi je savais que Yann pouvait courir très vite. Et puis après, bah, c'est aussi la magie des courses espagnoles. Alors on a vu des problématiques sur le départ. Il va falloir, ouais, très vite qu'il règle ce problème de départ. Mais sinon, les courses, pour faire des performances, que ça soit Valence, Séville, maintenant même sur semi à Barcelone ou sur marathon à Barcelone, ça court très vite. T'as Castellone aussi qui est... Disons que les parcours sont tellement rapides qu'il va falloir qu'il fasse attention sur les zones de départ à ne pas se faire qu'il y ait des problèmes à chaque fois, parce que c'est quand même assez... Il y a eu aussi à Lille, hein, c'est arrivé à Lille, c'est arrivé à Nice. Mais il va falloir régler ces problématiques-là pour les courses sur route sur les 10 km. Mais les courses espagnoles ont cette capacité à te proposer des parcours et des conditions météo vraiment au top pour pouvoir performer. Hein.
On va revenir justement sur la gestion des départs en fin d'émission. Mais Yann, je voulais revenir sur quelque chose. Penses-tu avoir de la marche sur ce chrono? Tu disais être parti en mission kamikaze à la bord de ce 10 km-là. À quel point tu penses que tu as de la marche sur ces 10 secondes peut-être à gagner sur ce 10 km-là?
Alors, moi, je pense que déjà, le problème des courses sur route, c'est que tu ne pourras jamais tout contrôler. À la différence d'une course indoor où tu contrôles la wave light, tu contrôles la météo puisque tu connais la température, il n'y aura jamais de vent.
Il n'y a pas de vent.
Tu contrôles un peu tout. Dehors, le problème, c'est que je ne peux pas dire, au niveau de la météo, déjà, c'était quasi parfait. Mmh. Au niveau du pace, c'était quasi parfait, voire parfait. Il y aura peut-être effectivement le départ, parce qu'en fait, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'on est parti au bout de 200 mètres, on entend des pétards. Et on se regarde et on a ralenti. Je pense qu'à un moment donné, on devait être en 3:30 avec Almond, ah oui, devant, avec Félix, parce qu'on pensait qu'il y avait un faux départ. Faux donc départ. On voulait s'arrêter.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc la personne au pistolet, du coup, a retenti le pistolet plusieurs fois pour, semble-t-il, rappeler les athlètes, parce qu'il y avait une énorme cohue après le départ. Et il y a une sorte d'incompréhension avec les athlètes qui se sont dit: est-ce qu'on revient, est-ce qu'on repart? Et au final, la tête de course est partie.
Ouais, exactement. Mais a priori, c'était des pétards, c'était des feux d'artifice.
énorme.
Donc en fait, moi, je l'entends 2-3 fois, je me dis, faux départ. Après, j'entends 5, 6, 7, 8 fois. Je dis, non, là, on y va. À mon avis, ça ne doit pas être ça. Ouais, allez, on va perdre 1 ou 2 secondes, maximum. Allez, maximum. Peut-être au 8e, où je vois que je ne suis pas dans les chronos, je prends un petit coup à la tête. Je perds peut-être 1 seconde. Ouais, allez, on va dire 3 secondes en tout. Mais tout le reste était tellement parfait que c'est difficile, avec la forme du moment en tout cas, de faire beaucoup mieux. Je pense que voilà, dans un monde idéal, elle est vraiment idéale, mais l'idéal n'existera jamais en course à pied. Ça peut faire du 39, 40 dans un monde idéal. Mais encore une fois, on est sur route. Et le jour où ça, ce sera tout parfait, il y aura autre chose qui viendra. Et je pense qu'une course parfaite, de toute façon, ça n'a jamais existé. Donc je considère que j'ai quasi optimisé à 99,9% mes chances de chrono, quoi.
Quand Mike Foppen s'écarte au 5e kilomètre, Yann, Almgren prend le lead et puis on voit un petit signe de la main. Il demande des relais et puis après, au fil de la course, 7-8e kilomètre, vous êtes plus que 4 dans le groupe avec Kibet qui est devant. Kibet prend un peu d'avance et puis il y a Almgren sur la gauche de la route, toi plutôt sur la droite de la route. C'est fait exprès, c'est parce que tu voulais prendre ta propre trajectoire et lui aussi, vous vouliez pas prendre, on va dire, l'aspiration quand même. À 24 km/h, il y a un peu d'aspiration.
Alors moi déjà, il y avait un truc que j'avais préparé avec le prépa mental la veille. Je voulais absolument pas le scénario où je lui suce la roue et je le bats à la fin. Ça, c'est déjà la première chose. C'est pour ça que je pense que instinctivement, parce qu'après j'ai complètement manqué de lucidité, j'ai des amnésies de course, j'ai dû re-regarder cette course-là parce que cette remarque, on me l'a fait plusieurs fois, donc j'ai dû regarder la course pour voir réellement ce que j'ai fait. Et effectivement, je pense que instinctivement, j'ai dû me dire, ne te mets pas trop dans les roues de Almgren parce que tu risques de le regretter à la fin si tu le bats. Ça se fait pas trop. En plus, il avait son lièvre et je pense que ça a dû jouer. Après, ça a dû jouer aussi dans le fait que j'ai pris quelques relais aussi pour essayer de maintenir une allure. En tout cas, le fait de me mettre à droite de la route, j'en sais rien. J'ai pas la réponse du tout. Et pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'était pour me protéger du vent qui n'existait pas? J'en sais rien. Est-ce que c'était pour avoir le paysage qui défile beaucoup plus rapidement parce que tu as des voitures à droite qui défilent plus qu'au milieu de la route où le paysage est beaucoup plus lent? J'en sais rien.
Mais t'es parfois passé très proche des voitures en plus.
Franchement, j'ai pas du tout la réponse. Des fois, je suis dans l'instinct et je sais pas ce que je fais. Et là, ça en fait partie, quoi.
En tout cas, la performance reste exceptionnelle. 26-43, on le rappelle, sur route. 6e performance mondiale de tous les temps. Merci, Yann, de nous avoir accordé ce temps, ces 15 minutes. En plein transit, on entend encore une fois le son de l'aéroport derrière toi. Donc merci encore de nous avoir accordé ce temps.
On va lui faire louper l'avion.
Ouais, c'est ça. C'est la fin de ce podcast RMC Running. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour finir, toujours le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer et paraît-il battre aussi des records du monde. Allez, ciao, Len.
RMC Running.